Germaine de Staël, Delphine, quatrième partie. Lettre 1 à 7 comprises. Lettre première. Léonce à Monsieur Barton. Paris, ce 10 juin 1791. On vous a écrit que j'avais la tête perdue. On a dit vrai. La vie de Delphine est en danger. Je suis dans une chambre près de la sienne. Je l'entends gémir. C'est moi, criminel que je suis, c'est moi qui l'ai jetée dans cet état. Pensez-vous que pour être calme, il suffise de la résolution de se tuer si elle meurt? Il y a des tourments inouïs tant que le sort est en suspens. Hier, elle m'a regardée avec une douceur céleste. Elle a reposé sa tête sur moi, comme si elle voulait recevoir quelque bien de moi, de ce furieux, l'unique cause. Non, elle ne mourra point. Depuis quelques heures, ses plaintes sont moins déchirantes. Elle n'a cessé, dans son délire, de rappeler une horrible scène dans une église. La nuit dernière, surtout, Madame de Lébancey et moi nous veillions auprès de son lit. Tout à coup, elle a soulevé sa tête. Ses cheveux sont tombés sur ses épaules. Son visage était d'une pâleur mortelle. Cependant, il avait je ne sais quel charme que je ne lui connaissais point encore. Son regard pénétrait le cœur et me faisait éprouver un sentiment de pitié si douloureux que j'aurais voulu mourir à l'instant pour en abréger la souffrance. « Léonce, me disait-elle, Léonce, je t'en conjure. N'exige pas de moi, dans le lieu le plus saint, le serment le plus impie. Ne me fais pas jurer mon déshonneur. Ne me menace pas de ta mort. Laisse-moi partir. Rends-moi la promesse que je t'ai faite de rester. Rends-la-moi. » Elle m'appelait, et cependant elle ne me connaissait pas. Ses yeux me cherchaient dans la chambre et ne pouvaient parvenir à me distinguer. Je m'écriai en me jetant à genoux devant son lit que je la dégageais de tout, qu'elle était libre de me quitter. Que n'aurais-je pas fait pour la calmer? Quel arrêt n'aurais-je pas prononcé contre moi-même? Mais, hélas, elle n'entendit point ma réponse, et répétant sa prière, elle m'accusa de la refuser, et me demanda grâce avec un accent toujours plus déchirant, chaque fois qu'elle croyait n'obtenir aucune réponse. Ah, ciel, concevez-vous un supplice égal à celui que j'éprouvais? On eût dit qu'un pouvoir magique nous empêchait de nous comprendre. Elle m'implorait et je lui paraissais inflexible. Elle se plaignait de mon silence et son délire l'empêchait de m'entendre. Moi qu'elle accusait et suppliait tour à tour, j'étais là près d'elle, essayant en vain de faire arriver jusqu'à son cœur une seule des paroles que mon désespoir lui prodiguait, et ne pouvant ni la détromper ni la secourir. Ô mon maître, quelle âme m'avez-vous formée? D'où viennent tant de douleurs? Une fois dans mon enfance, je m'en souviens, j'ai failli mourir dans vos bras. Si vous eussiez prévu mes jours d'à présent, n'est-il pas vrai, vous ne m'auriez pas secouru. Je ne serais pas ici. Ces cris ne perceraient pas jusqu'à ma tombe. J'y reposerai en paix depuis longtemps. Ô ciel, elle m'appelle. Lettre 2. Léonce à Delphine, ce 12 juin. Tu vivras, ma Delphine, ils me l'ont juré. Que le ciel les en récompense. Ah, combien il a duré le temps qui vient de s'écouler. Est-il vrai que tu n'as été en danger que pendant 10 jours? Le souvenir de toutes mes années me semble moins long. Tu es mieux, on m'en répond. Je devrais en être certain. Mais que je suis loin encore d'être rassuré. Les pensées qui t'agitent prolongent tes souffrances. Que puis-je faire? Que pourrais-je te dire qui porta du calme dans ton âme? As-tu besoin de m'entendre répéter que je déteste la scène criminelle qui a produit sur ton imagination un effet si terrible? Ah, tu n'en peux douter. Souviens-toi que je me refusais à te suivre dans cette fatale église. Je me sentais, depuis quelques jours, dans un égarement qui montait tout empire sur moi-même. Cette prière solennelle de Thérèse, que je croyais concertée avec toi, la terreur de ton départ, le souvenir d'un hymen funeste, cruellement retracé, l'amour, les regrets, que sais-je? L'homme peut-il se rendre compte de ce qui cause sa folie? J'étais insensé. Mais tu ne dois pas craindre que désormais, ce coupable délire puisse s'emparer de moi. Tu ne le dois pas, si tu as quelque idée de l'impression qu'a faite sur mon cœur l'état où je t'ai vu. Mon amour n'a rien perdu de sa force, mais il a changé de caractère. Il me semblait, avant ta maladie, qu'une vie surnaturelle nous animait tous les deux. J'avais oublié la mort. Je ne pensais qu'à la passion, qu'à ses prodiges, qu'à son enthousiasme. Au milieu de cette ivresse, tout à coup, la douleur t'a mise au bord du tombeau. Oh, jamais un tel souvenir ne peut s'effacer. La destinée m'a replacée sous son joug. Elle m'a rappelé son empire. Je suis soumis. Toutes les craintes, tous les devoirs pourront m'en imposer maintenant. N'ai-je pas été au moment de te perdre? Suis-je sûr de te conserver encore? Et mes emportements criminels n'ont-ils pas rempli ton âme innocente de terreur et de remords? Ô Delphine, être que j'adore, ange de jeunesse et de beauté, relève-toi, ne te laisse plus abattre, comme si ma passion coupable avait humilié l'âme sublime qui sut en triompher. Delphine, depuis que je t'ai vue prête à remonter dans le ciel, je te considère comme une divinité bienfaisante qui recevra mes vœux, mais dont je ne dois pas attendre des affections semblables aux miennes. Que se passe-t-il dans ton cœur? Tu parais indifférente à la vie, et cependant je suis là près de toi. Nous ne sommes pas séparés, nous nous voyons sans cesse et tu veux mourir. Mon ami, les jours de Bellerive sont-ils donc entièrement effacés de ta mémoire? Nous en avons eu de bien heureux, ne t'en souviens-tu plus? Ne veux-tu pas qu'ils renaissent? Insensé que je suis, puis-je désirer encore que tu me confies ta destinée? Delphine, ton sort était paisible. Tu étais l'admiration et l'amour de tous ceux qui te voyaient. Je t'ai connue et tu n'as plus éprouvé que des peines. Eh bien, douce créature, es-tu découragée de m'aimer? Ce sentiment qui te consolait de tout est-il éteint? Tu n'as pu me parler. J'ignore ce qui t'occupe. Je ne sais plus ce que je suis pour toi. Cependant, puisque je ne me sens pas seule au monde, sans doute tu m'aimes encore. J'ai craint de t'agiter trop vivement par un entretien. J'ai préféré de t'écrire pour te rassurer. Pour te dire même que tu étais libre, oui, libre de me quitter. Si mon supplice, si mon désespoir... Non, je ne veux point t'effrayer. Je t'ai rendu le pouvoir absolu. À quelque prix que ce soit, tu peux en user. Mais quand je te jure, par tout ce qu'il y a de plus sacré sur la terre, de te respecter comme un frère, Delphine, pourquoi changerais-tu rien à notre manière de vivre? Ne frémis-tu pas à l'idée de ces résolutions nouvelles qui bouleversent l'existence quand tout est si bien? Coupable que je suis, pourquoi n'ai-je pas toujours pensé ainsi? Je suis résignée. Tu n'as plus rien à craindre de moi. Tu dois en être convaincu. Nous nous connaissons trop pour ne pas répondre l'un de l'autre. Oh, n'est-il pas vrai qu'à présent, si tu le veux, tu seras bientôt guéri? Tu en as le pouvoir. Cet amour qui existe en nous peut appeler ou repousser la mort à son gré. Il nous anime. Il est notre vie. Delphine, il réchauffera ton sein. Sois heureuse. Livre ton âme aux plus douces espérances. Les douleurs que j'ai ressenties ont pour toujours enchaîné les passions furieuses de mon âme. Oui, De quelque puissance que vienne cette horrible leçon, elle a été entendue. Mon ami, je vais te voir. Je vais te porter cette lettre. Après l'avoir lue, ne me dis rien. Ne me réponds pas. Un de tes regards m'apprendra tes plus secrètes pensées. Lettre 3. Mademoiselle d'Albémare à Madame de Lébancey. Dijon, ce 14 juin 1791. Je serai à Paris, madame, le lendemain du jour où vous recevrez cette lettre. Préparez Delphine à mon arrivée. Oh, ma pauvre Delphine, dans quel état vais-je la trouver? Elle sera mieux, je l'espère. Sa jeunesse, vos soins l'auront-ils sauvée? De quel secours pourrais-je être à son bonheur? Mais elle m'a nommée, dites-vous. J'ai dû venir. Je vous en conjure, madame. Épargnez-moi le plus que vous pourrez les occasions de voir du monde. Vous ne savez peut-être pas à quel point je souffre d'arriver à Paris. Mais aucune considération n'a pu m'arrêter quand il s'agissait d'une personne si chère. Adieu, madame. Je repars à l'instant pour continuer ma route. Louise d'Albémare. Lettre 4. Madame de Lébancey à Monsieur de Lébancey. Paris, ce 19 juin. Tu peux m'envoyer chercher demain, mon cher Henri, pour retourner près de toi. La belle-sœur de Madame d'Albémare est arrivée depuis 2 jours. Delphine est mieux, malgré l'émotion très vive que lui a causée la présence de son amie. Elle peut maintenant se passer de mes soins. Quoique mon amitié pour elle soit la plus tendre de toutes, j'ai besoin de me retrouver dans notre doux intérieur. La vie m'est pénible, loin de mon époux et de mon enfant. Madame d'Albémare a reçu une lettre de Léonce qui l'a un peu calmée à ce que je crois, car au milieu de nous, elle a eu quelques retours de cet esprit aimable et piquant qui la rend si séduisante. Je ne pourrai jamais te peindre la reconnaissance qui animait les regards de Léonce à chaque mot qu'elle disait. Depuis que nous craignons pour la vie de Delphine, j'ai pris pour M. de Mondeville un intérêt véritable. Chaque jour, il m'a donné une preuve nouvelle de la sensibilité la plus profonde. Quand Delphine souffrait, Léonce se tenait attaché aux colonnes de son lit dans un état de contraction qui était plus effrayant encore que celui de son ami. Souvent, il se plaçait devant elle, en l'observant avec des regards si fixes, si perçants, qu'il pressentait tout ce qu'elle allait éprouver et rendait compte de son mal au médecin avec une sagacité, avec une sollicitude qui étonnait leur longue habitude de la douleur. As-tu remarqué l'autre jour l'art avec lequel il les interrogeait? Son besoin de savoir, ses efforts pour écarter une réponse funeste? J'étais convaincue en le voyant que si les médecins lui avaient prononcé que Delphine n'en reviendrait pas, il serait tombé mort à leurs pieds. Depuis que tu nous as quittés, depuis que Delphine est presque convalescente, il invente 1000 soins nouveaux, comme l'amie la plus attentive. Quand Delphine s'endort, il rougit et pâlit au moindre bruit qui pourrait l'éveiller. S'il essaie de lui faire la lecture et que ses yeux se ferment en l'écoutant, il reste immobile à la même place pendant des heures entières, repoussant de la main les signes qu'on lui fait pour l'inviter à venir prendre l'air, et contemplant en silence avec des yeux mouillés de larmes cette belle et touchante créature que la mort a été si près de lui enlever. Enfin, je ne puis m'empêcher d'excuser Delphine en voyant comme elle est aimée. La preuve touchante d'amitié que Mademoiselle d'Albémare a donnée à sa belle-sœur lui a causé beaucoup de joie. Mais il m'a paru que M. de Mondeville était extrêmement troublé de l'arrivée de Mademoiselle d'Albémare. Il s'imagine, je crois, qu'elle vient pour emmener Delphine. Et si j'en juge par quelques mots qu'il a dit, ce projet ne s'accomplira pas facilement. Cependant, il serait peut-être nécessaire qu'elle s'éloignât pendant quelque temps. Une femme de mes amies m'a assuré qu'on commençait à dire assez de mal d'elle dans le monde. On a rencontré Léonce une fois revenant très tard de Bellerive. Les visites qu'il y faisait chaque soir sont connues. La chaleur avec laquelle il a pris la défense de Delphine, lorsqu'elle s'est dévouée si généreusement pour nous, a donné de la consistance aux soupçons vagues qui existaient déjà. On se souvient encore des bruits qui ont été répandus sur M. de Serbellane. Et quoique la noble démarche de Mme d'Hervin, avant de prendre le voile, les ait formellement démentis, tu sais bien que dans un pays où l'on n'écoute point la réponse, une justification ne sert presque à rien. La première accusation fait perdre à une femme la pureté parfaite de sa réputation. Elle pourrait la recouvrer dans une société qui mettrait assez d'importance à la vertu pour chercher à savoir la vérité. Mais à Paris, l'on ne veut pas s'en donner la peine. Tu sais braver, mon cher Henri, toutes ces défaveurs de l'opinion dont nous sommes tous les deux plus victimes que personne. Mais Léonce n'a point à cet égard un caractère aussi fort que le tien. Ne vaudrait-il pas mieux pour Delphine ne pas le mettre à cette épreuve? Au reste, M. de Mondeville ne se doute pas du murmure encore sourd qui menace la considération de celle qu'il aime. Il n'a point été dans le monde depuis que Delphine est malade. Il partage sa vie entre elle et sa femme, et je le crois fort occupé du désir de captiver la bienveillance de Mademoiselle d'Albémar. Il lui montre une déférence et des égards dont elle est fort reconnaissante. Ses désavantages naturels lui font éprouver une telle timidité qu'elle a besoin d'être encouragée pour oser seulement entrer dans une chambre et y prononcer à voix basse quelques mots toujours spirituels, mais dont elle a constamment l'air de douter. Mon ami, quel malheur que d'être ainsi privé de toute confiance en soi-même, et de ne pouvoir inspirer à aucun homme l'affection qui l'engagerait à vous servir d'appui. Si j'avais eu la figure et la taille de Mademoiselle d'Albémar, vainement mon cœur et mon esprit eussent été les mêmes. Je t'aurais aimé sans que jamais ton amour eût récompensé le mien. Lettre 5. Delphine à Madame de Lébancé. Paris, ce 6 juillet. Pourquoi l'indisposition de votre fils ne vous a-t-elle pas permis de venir hier chez moi? Je le regrette vivement. Je ne sais quelle pensée douce et triste, quel pressentiment qui tient peut-être à la faiblesse que la maladie m'a laissée, me dit que j'ai joui de mon dernier jour de bonheur. Pourquoi donc l'ai-je goûté sans vous? Quand mes amis célébraient ma convalescence, ne deviez-vous pas en être témoin? Vos soins m'ont sauvé la vie, et dût-elle ne pas être un bienfait pour moi, je chérirais toujours le sentiment qui vous a inspiré le désir de me la conserver. Vous aviez déjà remarqué les soins de Léonce pour ma belle-sœur. Il cherchait à se la rendre favorable parce qu'il imaginait que je la choisirais pour l'arbitre de notre sort. Nous ne nous en étions point parlé, mais il existe entre nos cœurs une si parfaite intelligence qu'il devine même ce que je ne pense encore que confusément. Mademoiselle d'Albémar, par respect pour la mémoire de son frère, a introduit M. de Valorbe chez moi. Léonce, qui avait ordonné qu'on lui fermât ma porte pendant que j'étais malade, le voyant amené par Mademoiselle d'Albémar, ne s'y est point opposé. Et cependant, M. de Valorbe gâte assez, selon moi, le plaisir de notre intimité. Mais Léonce met tant de prix à plaire à ma belle-sœur qu'il ne veut en rien la contrarier. Je remarquais seulement depuis quelques jours que toutes les fois que l'on parlait du départ du roi et de la cruelle manière dont il a été ramené à Paris, Léonce cherchait à faire entendre qu'il croyait le moment venu de se mêler activement des querelles politiques. Et il m'était aisé de comprendre que son intention était de me menacer de quitter la France et de servir contre elle si je me séparais de lui. Je cherchais l'occasion de dire à Léonce que, ne me sentant plus la force de me replonger dans l'incertitude qui a failli me coûter la vie, je m'en remettais de mon sort à ma sœur. Je voulais l'assurer en même temps que j'ignorais son opinion, car, par ménagement pour moi, elle n'a pas voulu jusqu'à ce jour m'entretenir un seul instant de ma situation. Mais hier, à 6 heures du soir, comme je devais descendre pour la première fois dans mon jardin, Léonce et ma belle-sœur me proposèrent d'aller à Bellerive. Votre mari, qui était venu me voir, insista pour que j'acceptasse. Monsieur de Valorbe se crut le droit de me prier aussi. Il m'était pénible de n'être pas seul en retournant dans des lieux si pleins de mes souvenirs. Je cédais, cependant, au désir qu'on me témoignait. Je demandai Isaure, qui m'est devenue plus chère encore par l'intérêt qu'elle m'a montré pendant ma maladie. On me dit qu'elle était sortie avec sa gouvernante et nous partîmes. La voiture m'étourdit un peu. Je me plaignais pendant la route de ce que nous arriverions de nuit. Mais comme personne ne paraissait s'en inquiéter, je me laissai conduire. Le long épuisement de mes forces m'a laissé de la rêverie et de l'abattement. Je n'ai pas retrouvé la puissance de penser avec ordre, ni de vouloir avec suite. Nous entrâmes d'abord dans ma maison. Elle était ouverte, et je m'étonnais de n'y trouver aucun de mes gens. Mais au moment où j'ouvris la porte du salon, je vis le jardin tout entier illuminé, et j'entendis de loin une musique charmante. Je compris alors l'intention de Léonce, et, soit que je fusse encore faible, ou que tout ce qui me vient de lui me cause une émotion excessive, je sentis mon visage couvert de larmes à la première idée d'une fête donnée par Léonce pour mon retour à la vie. J'avançai dans le jardin. Il était éclairé d'une manière tout à fait nouvelle. On n'apercevait pas les lampions cachés sous les feuilles, et on croyait voir un jour nouveau, plus doux que celui du soleil, mais qui ne rendait pas moins visibles tous les objets de la nature. Le ruisseau qui traverse mon parc répétait les lumières placées des deux côtés de son cours et dérobées à la vue par les fleurs et les arbrisseaux qui le bordent. Mon jardin offrait de toutes parts un aspect enchanté. J'y reconnaissais encore les lieux où Léonce m'avait parlé de son amour, mais le souvenir de mes peines en était effacé. Mon imagination affaiblie ne m'offrait pas non plus les craintes de l'avenir. Je n'avais de force que pour le présent, et il s'emparait délicieusement de tout mon être. La musique m'entretenait dans cet état. Je vous ai dit souvent combien elle a d'empire sur mon âme. On ne voyait point les musiciens. On entendait seulement des instruments à vent. Harmonieux et doux, les sons nous arrivaient comme s'ils descendaient du ciel. Et quel langage, en effet, conviendrait mieux aux anges que cette mélodie qui pénètre bien plus avant que l'éloquence elle-même dans les affections de l'âme. Il semble qu'elle nous exprime les sentiments indéfinis, vagues et cependant profonds que la parole ne saurait peindre. Je n'avais encore vu que la fête solitaire. Au détour d'une allée, j'aperçus, sur des degrés de gazon, ma douce Isaure entourée de jeunes filles, et dans l'enfoncement plusieurs habitants de Bellerive qui m'étaient connus. Isaure vint à moi. Elle voulut d'abord chanter je ne sais quel vers en mon honneur. Mais son émotion l'emporta, et se jetant dans mes bras avec cette grâce de l'enfance, qui semble appartenir à un meilleur monde que le nôtre, elle me dit « Maman, je t'aime. Ne me demande rien de plus, je t'aime. » Je la serrai contre mon cœur et je ne pus me défendre de penser à sa pauvre mère. Thérèse, me dis-je tout bas, faut-il que je reçoive seule ces innocentes caresses dont votre cœur déchiré s'est imposé le sacrifice? Léonce me présenta successivement les habitants du village à qui j'avais rendu quelques services. Il les savait tous en détail et me les dit l'un après l'autre, sans que je pensasse à l'interrompre. Je le laissais me louer pour jouir de son accent, de ses regards, de tout ce qui me prouvait son amour. Enfin, il fit approcher des vieillards que j'avais eu le bonheur de secourir, et leur dit « Vous qui passez vos jours dans les prières, remerciez le ciel de vous avoir conservé celle qui a répandu tant de bienfaits sur votre vie. Nous avons tous failli la perdre, ajouta-t-il avec une voix étouffée. Et dans ce moment, la mort menaçait de bien plus près encore le jeune homme que le vieillard. Mais elle nous est rendue. Célébrez tous ce jour. Et s'il est un de vos souhaits que je puisse accomplir, vous obtiendrez tout de moi au nom de mon bonheur. » Je craignis dans ce moment que M. de Valorbe ne fût près de nous et que ses paroles ne l'éclaircissent sur le sentiment de Léonce. Votre mari, qui a pour ses amis une prévoyance tout à fait merveilleuse, l'avait engagé dans une querelle politique qui l'animait tellement qu'il fut près d'une heure loin de nous. Quand la danse commença, nous revînmes lentement, ma belle-sœur, Léonce et moi, vers cette partie du jardin réservée pour nous seuls qui environnait ma maison. Nous y retrouvâmes la musique aérienne, les lumières voilées, toutes les sensations agréables et douces, si parfaitement d'accord avec l'état de l'âme dans la convalescence. Le temps était calme, le ciel pur. J'éprouvais des impressions tout à fait inconnues. Si la raison pouvait croire au surnaturel, s'il existait une créature humaine qui méritât que l'être suprême dérangeât ses lois pour elle, je penserais que, pendant ces heures, des pressentiments extraordinaires m'ont annoncé que bientôt je passerais dans un autre monde. Tous les objets extérieurs s'effaçaient par degrés devant moi. Je n'entendais plus. Je perdais mes forces, mes idées se troublaient. Mais les sentiments de mon cœur acquéraient une nouvelle puissance. Mon existence intérieure devenait plus vive. Jamais mon attachement pour Léonce n'avait eu plus d'empire sur moi, et jamais il n'avait été plus pur, plus dégagé des liens de la vie. Ma tête se pencha sur son épaule. Il me répéta plusieurs fois avec crainte « mon ami, souffrez-vous ?» Je ne pouvais pas lui répondre. Mon âme était presque à demi séparée de la terre. Enfin, les secours qu'on me donna me firent ouvrir les yeux et me reconnaître entre ma sœur et Léonce. Il me regardait en silence. Sa délicatesse parfaite ne lui permettait pas de m'interroger sur ce qui l'occupait uniquement dans un jour où ses soins pleins de bonté pouvaient lui donner de nouveaux droits. Mais avais-je besoin qu'il me parlât pour lui répondre? Léonce, lui dis-je en serrant ses mains dans les miennes, c'est à ma sœur que je remets le pouvoir de prononcer sur notre destinée. Voyez-la demain, parlez-lui, et ce qu'elle décidera, je le regarde d'avance comme l'arrêt du ciel. J'y obéirai. Qu'exigez-vous de moi? Interrompit ma sœur. Mon père, mon époux, mon protecteur revit en vous, lui dis-je. Jugez de ma situation. Vous connaissez maintenant Léonce, je n'ai plus rien à vous dire. Ma sœur ne répondit point. Léonce se tut, et il me sembla que les plus profondes réflexions s'emparaient de lui. Votre mari et M. de Valorbe nous rejoignirent, et nous revînmes tous à Paris. M. de Valorbe et M. de Lébancey causèrent ensemble pendant la route sans que nous nous en mêlassions. Quel usage Louise fera-t-elle des droits que je lui ai remis? Peut-être prononcera-t-elle qu'il faut nous séparer. mais j'espère qu'elle me laissera encore un peu de temps. Et si j'ai du temps, qui sait si je vivrai? Vous ne savez pas combien, dans de certaines situations, une grande maladie et la faiblesse qui lui succède donnent à l'âme de tranquillité. L'on ne regarde plus la vie comme une chose si certaine, et l'intensité de la douleur diminue avec l'idée confuse que tout peut bientôt finir. Je m'explique ainsi le calme que j'éprouve dans un moment où va se décider la résolution dont la seule pensée m'était si terrible. Je me refuse à souffrir. Mes facultés ne sont plus les mêmes. Suis-je resté moi? Hélas! Sais-je si demain je ne sentirai pas toutes les douleurs que je crois émousser? Je vous écrirai ce qui sera prononcé sur mon sort. Vous vous intéressez à mon bonheur, vous me l'avez dit. Vous me l'avez prouvé de mille manières. Jamais mon cœur n'aura rien de caché pour vous. Adieu. Cette longue lettre m'a fatiguée. Mais je voulais que vous fussiez présente à cette fête qui vous était due. Car personne n'a plus contribué que vous à mon rétablissement. Lettre 6. Mademoiselle d'Albémar à Delphine. Paris, ce 8 juillet. J'aime mieux vous écrire que vous parler, ma chère Delphine. Je ne veux pas prolonger votre anxiété, et je ne me sens pas à la force ce soir, après les heures que je viens de passer avec Léonce, de soutenir une émotion nouvelle. Vous avez voulu que je fusse l'arbitre de votre sort. Est-ce par faiblesse? Est-ce par courage que vous l'avez souhaité? Je n'en sais rien. Mais, quoi qu'il dût m'en coûter, je ne pouvais me résoudre à repousser votre confiance. Et, puisque j'ai fait de votre destinée la mienne, j'ai presque le droit d'intervenir dans la plus importante décision de votre vie. Que vais-je vous dire, cependant? Je devrais avoir plus de force que vous, et je vous en montrerai peut-être moins. Je devrais vous encourager dans le plus pénible effort, et je vais peut-être affaiblir les motifs qui vous en rendraient capable. J'aurai sûrement une conduite différente de celle que vous attendez. Mais comme je me sacrifie moi-même au conseil que je vous donne, je suis sûre au moins que mon opinion n'est pas dirigée par ce qui entraîne les hommes au mal, l'intérêt personnel. Il est possible que vous ayez en moi un mauvais guide. Je connais peu le monde, et le spectacle des passions, tout à fait nouveau pour moi, ébranle trop fortement mon âme. Mais enfin, après avoir observé Léonce, après l'avoir écouté longtemps, je ne me crois pas permis de vous conseiller de vous séparer de lui maintenant. La douleur excessive qu'il m'a montrée, la douleur plus dévorante encore qu'il essayait en vain de contenir, les résolutions funestes que, dans les circonstances politiques où la France se trouve, vous pouvez seul l'empêcher d'adopter, tout m'effraie sur votre sort si vous preniez un parti devenu trop cruel pour tous les deux. Delphine, après avoir laissé tant d'amour se développer dans le cœur de Léonce, il est du devoir d'une âme sensible de ménager avec les soins les plus délicats ce caractère passionné. Je m'entends mal à déterminer les limites de l'empire entre la morale et l'amour. La destinée ne m'a point appris à les connaître. Mais il me semble qu'après le mariage de Léonce, il fallait vous séparer de lui, mais que vous ne devez pas maintenant briser son cœur en l'immolant tout à coup à des vertus intempestives. Je ne sais si le charme de Léonce a exercé sur moi trop de puissance. Je le confesse, s'il existe une gloire pour les femmes hors de la route de la morale, cette gloire est sans doute d'être aimée d'un tel homme. Ses qualités éminentes ne sont point un motif pour lui sacrifier vos principes, mais vous lui devez de chercher à les concilier avec son bonheur. Un caractère si remarquable impose des devoirs à tous ceux qui peuvent influer sur son sort. En vous parlant ainsi, croyez bien que je me suis imposée celui de ne pas vous quitter. Malgré mon éloignement pour Paris, je resterai jusqu'à ce que vous puissiez vous en aller avec moi sans exposer les jours de Léonce. Vous voulez m'arranger un appartement chez vous, je l'accepte. Monsieur de Mondeville se soumet à ne vous voir qu'avec moi. Il proteste qu'après ce qu'il a craint, il sera heureux de votre seule présence, de votre entretien, de ce charme que vous savez répandre autour de vous et dont je sens si bien la douce influence. Delphine, essayez ce nouveau genre de vie. Il calmera par degrés la violence des sentiments de Léonce, et vous pourrez goûter un jour, peut-être, ensemble, les pures jouissances de l'amitié. Ce que je crois certain, au moins selon les lumières de ma raison, c'est qu'il serait mal de faire succéder tant de rigueur à tant de faiblesse, et de cesser tout à coup de voir Léonce, après 6 mois passés presque seul avec lui. Souffrez que je vous le dise, mon ami, la parfaite vertu préserve toujours de l'incertitude. Mais quand on s'est permis quelques fautes, les devoirs se compliquent, les relations ne sont plus aussi simples, et il ne faut pas imaginer de tout expier par un sacrifice inconsidéré qui déchirerait le cœur dont vous avez accepté l'amour. Si vous vous sépariez de Léonce avant d'avoir, s'il est possible, affaiblit la douleur que cette idée lui cause, vous ne feriez qu'une action barbare autant qu'inconséquente, et vous le livreriez à un désespoir dont la cause serait la passion même que vous avez excitée. En me permettant de prononcer un avis que l'austère vertu condamnerait peut-être, j'ai réfléchi sur moi-même. Il se peut que, n'ayant jamais été l'objet d'aucun sentiment d'amour, je sois moins accoutumé à résister à la pitié qu'il inspire. Il se peut que, n'ayant jamais eu à triompher de mon propre cœur, j'hésite à conseiller un sacrifice dont je n'ai jamais mesuré la force. Enfin, il se peut surtout qu'ayant passé ma triste vie sans jamais avoir été le premier objet des sentiments de personne, je tremble de briser l'image d'un tel bonheur lorsqu'elle s'offre à moi. C'est à vous de juger des motifs qui ont influé sur mon opinion, mais quelles qu'en soient les causes, j'ai dû vous l'exprimer. Convaincu comme je le suis que, si dans la disposition actuelle de Léonce, vous persistiez à vouloir le quitter, il s'exposerait à une mort inévitable, je ne puis vous engager à partir. Je souffrirais en vous donnant un tel conseil comme si je faisais une action injuste et cruelle. Je ne vous le donnerai donc point. Lettre 7. Delphine à Madame de Lébancey, Paris, ce 11 juillet. Ma sœur a décidé que je ne devais pas partir. Léonce a exercé sur elle cet ascendant irrésistible qui est peut-être aussi mon excuse. Enfin, j'avais promis de me soumettre à ce qu'elle prononcerait. Elle sacrifie ses goûts à mon bonheur. Elle vient rester près de moi pour veiller sur mon sort. Les promesses de Léonce, les réflexions que j'ai faites pendant ma longue maladie, tout me répond de moi-même et de lui. J'éprouve donc depuis quelques jours, ma chère Élise, un sentiment de calme souvent assez doux. Cependant, m'était-il permis de mettre ainsi l'opinion d'une autre à la place de ma conscience? Je ne sais. Mais je n'avais plus la force de me guider, et j'éprouvais une telle anxiété que peut-être je devais enfin compatir à moi-même, et chercher pour moi, comme pour un autre, une ressource quelconque, qui soulage les maux que je ne pouvais plus supporter. Quand j'ai choisi pour arbitre l'âme la plus honnête et la plus pure, n'en ai-je pas assez fait? Que peut-on exiger de plus? Léon s'était hier parfaitement heureux. Ma sœur nous regardait avec attendrissement. Il me semblait que nous goûtions les plaisirs de l'innocence. Ne peuvent-ils pas exister, même dans notre situation, ou serait-ce encore une des illusions de l'amour? J'ai néanmoins répété, en consentant à rester, que si Mathilde exprimait de l'inquiétude sur ma présence, je partirais. Mais elle est venue me voir 2 ou 3 fois depuis ma convalescence. Elle s'est fait écrire tous les jours chez moi quand j'étais malade, et je n'ai rien vu, ni dans ses manières, ni dans sa conduite, qui annonçât le plus léger changement dans ses dispositions pour moi. Elle a l'air de la tranquillité la plus parfaite. Je ne conçois pas comment l'on peut être la femme d'un homme tel que Léonce, l'aimer sincèrement, et n'éprouver ni des sentiments exaltés, ni l'inquiétude qu'ils inspirent. Je ne veux point retourner à Bellerive, cette vie solitaire est trop dangereuse. Je crains d'ailleurs de m'être fait assez de mal dans la société en m'en éloignant. Léonce n'a vu personne encore depuis ma maladie. Est-il sûr qu'il n'apprendra rien sur ce qu'on dit de moi qui puisse le blesser? Hier, Madame d'Artenay est venue me voir, j'étais seule. Il m'a semblé qu'il y avait dans sa conversation assez d'embarras. Elle me donnait des consolations, sans m'apprendre à quel malheur ces consolations s'adressaient. Elle m'assurait de son appui, sans me dire contre quel danger elle me l'offrait, et se répandit en idées générales sur la raison et la philosophie d'une manière peu conforme à son caractère habituel. J'ai voulu l'engager à s'expliquer. Elle m'a répondu vaguement que tout s'arrangerait quand je reparaîtrais dans le monde. Et ne voulant entrer dans aucun détail avec moi, elle m'a beaucoup pressé de venir chez elle. Telle que je connais Madame d'Artenay, ses impressions viennent toutes de ce qu'elle entend dire dans les salons de Paris. Son univers est là, tout son esprit s'y concentre. Elle a sur ce terrain assez d'indépendance et de générosité. Mais n'ayant pas l'idée qu'on puisse trouver du bonheur ou de la considération hors de la bonne compagnie de France, elle vous plaint ou vous félicite d'après la disposition de cette bonne compagnie pour vous, comme s'il n'existait pas d'autre intérêt dans le monde. Je suis persuadée qu'elle aurait fini par me parler sincèrement si ma sœur n'était pas arrivée. Mais elle a saisi ce prétexte pour partir, en me répétant avec amitié qu'elle comptait sur moi tous les soirs où elle a du monde chez elle. N'avez-vous rien appris, ma chère Élise, qui vous confirme les observations que j'ai faites sur Madame d'Artenay? Ce n'est pas à vous qui avez sacrifié l'opinion à l'amour que je devrais montrer le genre d'inquiétude qu'elle me cause. Mais comment ne souffrirais-je pas de ce qui pourrait rendre Léonce malheureux? Les affaires publiques dont votre mari s'occupe lui donnent plus de rapport que vous avec la société. Découvrez par lui, je vous en conjure, tout ce qui me concerne, tout ce que Léonce ne manquera pas de savoir dès qu'il retournera dans le monde. Je ne puis interroger que vous sur un sujet si délicat. On craint de montrer aux autres de l'inquiétude sur ce qu'on dit de nous, car il est bien peu de personnes qui ne tire de ce genre de confidence une raison d'être moins bien pour celle qu'il a leur fait. Mandez-moi donc ce que vous saurez, et pardonnez-moi cette lettre que votre parfaite amitié peut seule autoriser.